m'a semblé intéressant aujourd'hui, puisque nous parlons du destin de l'originaire, de mettre en parallèle le travail effectué sur l'originaire dans le concept après-coup, plus précisément dans le couple avant-coup, après-coup, et dans le concept d'oscillation entre positions schizophrénique, paranoïde et dépressive. Freud a finalement peu utilisé le terme de Nachträglichkeit, trois fois dans son œuvre selon la Standard Edition. Plus souvent, il est vrai, beaucoup plus souvent, l'adverbe Nachträglich. C'est l'école française avec Lacan, ainsi que le souligne Lapenche et Pantalis dans leur vocabulaire, qui a attiré l'attention sur ce terme d'après-coup. L'école kleinienne, avec l'accent qu'elle met sur la vie fantasmatique, les relations d'objets précoces et la précocité de la vie sexuelle, n'a pas eu besoin de recourir à la notion d'après-coup, qui est traduite en anglais par le terme de « deferred action ». Il ne s'agit pas de superposer les deux concepts, au risque de les aplatir l'un sur l'autre, mais de montrer comment, malgré les différences de pensée dans les courants français et kleiniens, l'un et l'autre de ces courants ont dû mettre en place un concept permettant la transformation de l'originaire.
Alors, au lieu de parler de l'avant-coup et l'après-coup, je vais parler de l'expérience originaire ou l'impression directe. L'expérience et la transformation dans les paroles énoncées et aussi la transformation dans les narratives. Parce que tout ça est sous-jacente l'idée de l'après-coup et surtout comme c'est entendu dans le clinique, parce que finalement on n'entend que les narratives finalement. je voudrais aborder deux sortes d'expériences originaires. La première, c'est l'expérience préverbale de l'enfant. Et puis le deuxième, c'est les expériences pour n'importe qui, les adolescentes, les adultes, qui est l'expérience éprouvée, directe, qui déroule dans le moment présent et qui fait une impression pendant ce moment-là. Et je vais parler de ces deux destins, ça veut dire les énoncés, les mots et les narratifs. Et ce que je veux faire ici, c'est de donner une certaine perspective sur ces problèmes, qui sont les problèmes de ontogenèse, continuité, non-continuité, etc. Bon, je vais parler, le premier cheval que je vais prendre, c'est des philosophes phénoménologiques. Parce qu'ils ont beaucoup réfléchi sur ce problème de comment est-ce qu'on va d'une expérience directe, éprouvée, pendant que ça arrive, à quelque chose réfléchi sur ça, qui sont normalement dans les mots, pas forcément, mais ça c'est un de nos transformations les plus importantes. Et ils sont d'accord pour la plupart, ça c'est le travail de quelques centaines d'années en fait, que c'est un problème de réflexivité et en quelle mesure est-ce que la réflexion va détordre ou décaler avec l'expérience originaire. Ça, c'est un problème central dans tout ça. Il y a un certain accord entre les philosophes phénoménologiques, pas complet, que l'expérience originaire, qui n'était pas reflétée, a une structure. Il ne faut pas que cela soit mis en mots d'être structuré. Ils ont une structure et que cette structure tourne autour de l'intentionnalité, que l'intention c'est vraiment à la base de toutes ces expériences qui sont mises en tête, que ce que peut faire le mise en mot c'est simplement d'accentuer ou intensifier ou thématiser certains éléments de cette expérience, mais il faut que cela soit toujours familier, encore. On ne peut pas virer trop. On peut, d'un certain moment, il ne faut pas être faux à l'expérience originaire qui existe. Il y a un aller-retour, bien sûr. Et que dans ce sens-là, les expériences originaires, les mots, les paroles, sont considérées chez les philosophes plutôt comme deux présentations différentes de la même intentionnalité. Si je prends maintenant le cheval des développementalistes qui regardent ces bébés, ils ont plutôt réalisé que l'expérience originaire, c'est tout ce que nous appelons avant l'expérience procédurale ou implicite par rapport à l'expérience explicite des mots. Mais notre idée de qu'est-ce que c'est les expériences implicites a beaucoup changé dans les années. Maintenant, on réalise que ce n'est pas limité à la chose sans son auteur, que ça inclut des affects, des pensées, des expectations, un tas de choses. Et ils ne sont pas appauvris, ils sont très riches. Et dans un certain sens, l'expérience non-verbale, pré-verbale, dans cet registre implicite, est beaucoup plus nuancée que les mots, parce que c'est analogique et pas digital, qui peut mettre 30 000 nuances entre deux catégories. Que ce n'est pas plus primitif que les mots ou les narratives, c'est simplement c'est le premier qui existe en temps, qui n'implique pas une primitivité. Et dans le même sens, ce n'est pas précurseur à la parole, le langage, la narrativité. Le monde implicite, notre connaissance et toutes ces impressions implicites continuent à croître pendant toute la vie. Il devient plus grand, plus sophistiqué, plus élaboré. Ce n'est pas qu'il disparaît dans les mots. Chez les développementalistes, on réalise de plus en plus la centralité de l'intentionnalité. Que l'esprit humain, apparemment, était désigné pour identifier les intentions des autres. On peut lire les esprits des autres par rapport aux intentions. On peut faire ça tout de suite. Il ne faut pas avoir toute une structure langagière pour ça. Et puis, on peut montrer ça dans un tas d'expériences qui sont assez habiles. Par exemple, il y a deux que j'aime beaucoup. Si vous avez un enfant qui ne parle pas encore, et un expérimentateur fait comme ça, il montre à l'enfant, il fait comme ça. Et puis cette fois, ça ne va pas dans la vase ici. Alors l'enfant va chez lui, il revient, et on lui donne la manipulation, et puis il prend le toc, il fait comme ça. Quand on y pense, ça veut dire qu'il a lu l'intention, c'était clair à lui, il a donné la priorité à ce qu'il a inféré dans la subjectivité de l'autre, ça veut dire l'intention, et pas à les actions qu'il a vues. Il va directement à l'esprit de l'autre. Voici un autre exemple, il y a une petite barre, et il y a deux boules à chaque côté, et il y a quelqu'un qui montre à l'enfant, il fait comme ça. C'est tout. Et puis l'enfant revient et on lui donne ce truc qu'il n'a jamais vu. Et il fait comme ça. Et ça, il enlève la boule. Et il fait un sourire. Il a su exactement ce que veut faire l'autre. Le contrôle de cette expérience, c'est quand on a un robot qui fait la même chose. Le robot fait fruit, si l'enfant revient après ça, il ne le fait pas. Parce que les robots n'ont pas les intentions. Il le sait tout de suite, il ne parle pas. Il y a tout un monde là, des expériences de toutes sortes originaires, aussi bien répétées, qui sont le avant-coup finalement de la psychanalyse, qui sont emmagasinées. Même les gens qui fait les expériences sur l'acquisition de langage, commence à voir le monde un peu différent. Le problème maintenant, c'est non plus comment est-ce qu'on va associer le signifiant avec le signifié et tout ça. On a commencé à voir l'utilisation, l'acquisition de langage comme une sorte de négociation entre le bébé et les adultes, avec le but de influencer les intentions de l'autre. C'est ça ce qu'on veut faire avec le langage et un tas des autres choses. Et ce qu'on fait, c'est qu'on établit un certain cadre ou une scène d'attention mutuelle, et puis on fait les négociations d'influence. Et il ne faut pas avoir les structures innée d'acquisition de langue. Il faut simplement jouer avec le langage dans ces contextes pour fonctionnellement effectuer ce qu'on veut au point de vue des intentions. C'est curieux ici parce que tout le monde finalement arrive aux mêmes choses. Ça veut dire soit les désirs chez Freud ou les buts par rapport les ethologues ou les intentionnalités chez les philosophes ou chez maintenant les développementalistes. C'est effectivement la même chose sur les échelles différentes avec tout un bagage différent. Aussi, on réalise que la plupart de l'acquisition de langage, ce n'est pas adressé aux objets et aux concepts, mais c'est plutôt dirigé vers l'état intentionnel de l'autre. C'est ça qui est le but. C'est ça qui est en jeu pour la plupart. C'est notre vision de l'acquisition du langage. Si je prends le cheval de la narrativité, le langage commence vers 18 mois. La narrativité commence vers, ça veut dire une narrative autobiographique, commence vers 3-4 ans, ils ne sont pas très bien jusqu'à 6 ans au point de vue de la forme. Mais la raison que c'est toute une autre chose, c'est que 2 ans avant qu'on peut faire une narrative qui est plus ou moins correcte, on peut parler. Mais c'est un autre format, c'est une autre chose, c'est un autre arrangement qui a une structure assez connue. Il n'y a pas de narrative s'il n'y a pas une... il faut que je dise ça en anglais, c'est plus facile pour moi. Who, where, why, when, what and how. Ça veut dire toutes les choses qui sont à la base des romans, des mythes, des phrases, de tout, effectivement. Ça, c'est la narrativité. Et le cœur de ça, c'est aussi l'intentionnalité. Et l'idée d'une narrative, c'est pas forcément d'influencer l'intentionnalité d'une autre, c'est de rendre l'expérience avec une certaine vérisimilitude à ce qu'on a expérimenté dans l'originaire. Ça, c'est l'idée. Et puis, dans ce sens-là, ça sert une autre fonction que les paroles en soi, mais quand même, il faut que ça ait référence à l'originaire. Alors, pour, dans un sens, résumer ma position ici, l'idée d'une progression développementale continue de l'originaire à le langage ou à la narrativité me permet une mauvaise concept. Il n'y a pas une progression. Plutôt, les trois, il n'y a pas un qui est un précurseur pour l'autre, dans le vrai sens du mot de précurseur. Ils sont trois moyens différents de présenter l'expérience. Point. Et il y a quelque chose qui court dans les trois, qui le permet d'avoir un aller-retour entre les trois. Ça, c'est que c'est l'intentionnalité qui est à la base. C'est ça qui est transmis dans les trois, différemment. Alors, il n'y a pas une progression, c'est simplement les nouveaux moyens qui ont des dates différentes au point de vue du timing développemental, qui veut dire que pour moi, l'originaire n'a pas un destin. Il n'y a aucun destin. L'originaire va rester originaire. Et on peut le présenter dans un autre moyen, comme les mots ou les narratives. Mais l'originaire ou les mots ou les narratives, comme format en soi, leur seul destin, en général, c'est de se élaborer de plus en plus et différemment, mais dans leurs propres termes et pas dans les termes des autres domaines. Bien sûr, chacun fait une modification des autres continuellement, constamment, mais il ne faut pas parler d'une continuité développementale entre ça. Et pour terminer, je vais dire je suis d'accord que c'est plutôt un commencement pour chacun, pas un recommencement. Et puis, il faut voir un enfant, disons, de 12 mois comme une personne complètement mature. Il est complètement mature pour quelqu'un de 12 mois. Et si on voit ce qu'il fait comme les précurseurs pour quelque chose après, on ne peut pas le voir. Et je trouve que ça, c'est le point essentiel de ce point de vue de l'anthrogenèse. Merci.
Le destin de l'originaire, c'est d'abord de nous poser cette question insoluble, indépassable, et qui a tout intérêt à demeurer en tension, dans la question entre deux hypothèses. Première hypothèse, l'originaire renvoie-t-il à un temps initial et quasi tangible du développement? Ou alors, deuxième hypothèse, avancée par André Guin aujourd'hui, mais aussi dans nombre de ses travaux, l'originaire joue-t-il en fait comme une simple fiction rétrospective, ce qu'il a appelé d'ailleurs dans un très beau texte la théorie sexuelle infantile de l'analyste sur son objet, à savoir la psyché. Ça, c'est très stimulant, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait absolument choisir entre ces deux hypothèses qui se dialectisent? En tout cas, c'est sur le fond de ce questionnement ouvert que tout le reste de mon propos peut être entendu. Et personnellement, j'ai tendance à penser que ce qui est mythique, c'est un supposé avant-coup originel. Sinon le reste, tous les après-coups sont des avant-coups, puisque la vie continue. Tout après-coup va devenir l'avant-coup de l'après-coup suivant. Et c'est pour ça que, d'une manière géométrique, ni la droite, ni le cercle, ni le temps linéaire, ni le temps circulaire ne nous satisfont vraiment. Il n'y a que la spirale qui marche, puisque ce sont les après-coups qui servent d'avant-coup au coup suivant. Ce qui est vraiment mythique, c'est le premier coup. Mais je crois que là-dessus, on serait tous assez d'accord.
Mais qu'est-ce que c'est l'intersubjectivité? Normalement, dans la plupart de la littérature philosophique et psychologique, on dit que c'est effectivement c'est le partage entre deux esprits du même paysage mental. Ok. C'est bien. Mais à ajouter quelque chose de très important, c'est mais disons qu'il y a un partage de quelque chose qui est conscient chez quelqu'un comme le thérapeute et quelque chose inconsciente chez la passion. Ça tombe en fait dehors de la définition normale de l'intersubjectivité. Parce qu'il faut que les deux soient conscients au même moment de même chose dans la définition pure et dure. Il faut, j'imagine, d'avoir plusieurs gradations d'intersubjectivité, où un est la sorte que tu as abordé. Il y a des autres, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe si on a une intersubjectivité pas complète? Parce que le complète, c'est quand on peut dire je sais que tu sais que je sais, ou je sens que tu sens que je sens. Mais disons qu'on n'est pas sûr que l'autre sait que tu sais qu'il sait. Mais en même temps, vous savez la même chose, vous sentir la même chose au même moment. Ça veut dire qu'il y a certaines gradations. Il y a un autre problème, c'est disons que vous savez qu'est-ce que c'est dans la tête de l'autre, mais l'autre ne sait pas ce qui est dans sa tête, qui est un peu similaire à cette situation. Pour moi, ça, ce n'est pas la intersubjectivité, c'est simplement une compréhension assez poussée de l'autre. Sauf si, et ici ça devient intéressant avec l'inconscient, si l'inconscient du patient, à ce moment, il y a des fentes, des craques dans le refoulement, et il y a des comportements qui sortent, même s'ils sont très subtils, ou le timing, ou la manière de dire quelque chose, ça peut être amené vers une vraie intersubjectivité, parce que finalement, on ne peut pas être intersubjectif avec quelqu'un s'il n'y a pas un partage de l'affect par rapport à l'état intérieur de ces deux gens. Et ce partage reste sur les comportements ouverts. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Probablement le véhicule pour l'intersubjectivité, c'est l'action. L'action, même tout petit du visage, du changement dans la musicalité, la voix, la tension, toutes ces petites choses, posture, etc. Et puis, nous savons maintenant que nous avons des neurones miroirs, pour résumer ça très brièvement, quand vous faites une action comme ça, il y a des neurones moteurs qui déchargent, mais il y a aussi des neurones miroirs qui sont à côté de ces neurones miroirs, et ils déchargent au même moment. Pas trop fascinant, mais ce qui est fascinant, c'est que si je fais le geste de prendre la bouteille, votre neurone du miroir vont décharger. Qui veut dire que vous avez un vrai décharge chez vous qui va vous mettre dans une situation de sentir et de participer dans ce que j'ai fait. Et c'était grâce à ça, en fait, que l'empathie, l'identification, mais aussi l'intersubjectivité peut passer. Autrement, c'est magique ou c'est qu'une compréhension intellectuelle. C'est pourquoi j'insiste sur l'aspect affectif. Et dans chaque action, il y a un aspect affectif, même si le but n'est pas affectif. Disons que je cherche la bouteille, je peux le faire comme ça, je peux faire comme ça. Deux sens de sentiment, de feeling, d'affect complètement différents que vous sentez avec moi. Il y a aussi des choses qui sont fascinantes qui s'appellent les oscillateurs adaptifs, qui sont effectivement les petites montres dans tout le corps, qui permettent que la personne peut être synchronisée avec le timing de l'autre. C'est pour ça que on peut danser, on peut être un footballeur, on peut courir et en même temps shooter la balle qui bouge, parce qu'il faut qu'on ait un timing exact, pas simplement de votre propre cœur, mais aussi de balle. Dans les interactions avec les gens, c'est plus compliqué parce qu'ils sont moins réguliers que les balles, parce qu'ils ont toutes les choses. Il faut que le monde qui suit l'autre, qui vous permette d'être à l'intérieur de l'autre dans un sens, est remis à zéro tout le temps. Par exemple, si un homme et une femme tombent amoureux, fous, avec un coup de foudre incroyablement fort, et tout à coup, pour la première fois, ils s'embrassent assez violemment. C'est rare qu'il va casser les dents. Parce que chacun a, sans penser, la capacité de faire un timing de leur propre décélération et également la décélération de la tête de l'autre, tel qu'il y a un atterrissage assez doux. Alors, ça veut dire que tout ce que fait un patient, on peut entrer dans leur peau, dans leur esprit, pour sentir ce qu'ils sentent. Mais il faut, dans ce sens-là, que l'inconscient a des échappements, les petites échappes dans le mouvement, dans le facial, dans quelque chose comme ça. Autrement, ça va être qu'une compréhension intellectuelle. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est l'intersubjectivité, de mon point de vue, demande que le partage d'un paysage mental soit maintenant. Il ne faut pas qu'un décalage entre la compréhension ou le senti de l'un et l'autre. Ça, ce n'est pas l'intersubjectivité pure. Peut-être c'est une variation. Et peut-être, grâce à tous ces problèmes cliniques, il faut avoir les gradations. Je dis, et c'est pourquoi c'est important que vous avez abordé tout ça. Deuxième point, j'ai trouvé fascinant comme vous avez mis ensemble ou mis en interaction l'intersubjectivité et les pulsions, surtout la sexualité. Je suis d'accord avec vous dans beaucoup des situations, mais je voudrais aller un peu plus loin. Je voudrais dire que l'intersubjectivité en soi, c'est un impulse primaire qui a le même statut pour l'espèce humaine que la sexualité ou l'attachement ou les autres choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Je dis ça parce que sans l'intersubjectivité, on ne peut pas avoir une intimité psychique, on ne peut pas avoir toutes ces coordinations des activités des gens qui sont si rapides, et nous sommes une espèce qui ne sont pas très bien armées. Et il faut travailler en groupe, il faut qu'on puisse passer les messages rapidement, efficacement. Et puis, sans intersubjectivité, on ne peut pas le faire. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que souvent, dans les situations, disons, sexuelles ou attachement, que l'attachement peut être dans le service d'intersubjectivité ou ça peut être l'autre, également avec la sexualité. Je sais que c'est un peu radical d'ajouter une autre pulsion, mais ça m'amène vers le troisième point. C'est vrai que la psychanalyse a travaillé avec et a reconnu l'intersubjectivité pour 100 ans. Mais ils ont jusqu'à récemment parlé de l'intersubjectivité dans les termes de transfert, de contre-transfert et des choses comme ça, qui effectivement a caché l'importance et la ubiquité de l'intersubjectivité. C'est que dans les dernières 10 ans, 15 ans, que les psychanalystes commencent à réaliser que c'est à la base de ce qui se passe entre un thérapeute et un patient dans presque n'importe quel traitement. L'idée, en fait, c'est de partager un dépaysage mental. Et bien sûr, ce n'est pas facile de faire ça, mais c'est ça qui est peut-être une des choses les plus importantes dans la guérison des gens.